Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussmann.
Quand j'avais 20 ans et que je suivais les cours ici au Collège de France, dans un endroit qui était nettement moins luxueux, que certains peut-être d'entre vous aussi âgés que moi ont connu, la salle 4, il y avait un professeur d'épigraphie grecque extrêmement sévère, qui terrorisait ses auditeurs, mais qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui s'appelait Louis Robert, qui a été le grand épigraphiste grec du XXe siècle et probablement le plus grand helléniste du XXe siècle. Et M. Robert avait l'habitude de dire « Il est absolument impossible de lire tous les livres qui sont relatifs à votre sujet. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout lu. » Lui avait tout lu, enfin, il nous permettait à nous de ne pas avoir tout lu. Mais par contre, disait-il, s'il y a un livre intelligent en dehors de votre discipline que vous n'avez pas lu, là, vous êtes impardonnable. C'est effectivement l'un des problèmes des sciences humaines et des sciences en général, c'est que l'on arrive à connaître son sujet que si l'on a une vue minimale de ce que les collègues écrivent ailleurs. Alors, ça peut aller jusqu'au point d'imiter leurs problématiques, mais il est de toute façon très intéressant de savoir comment les gens raisonnent. Quand on est professeur au Collège de France, on a le privilège de recevoir gratuitement des livres qu'autrement on n'aurait peut-être pas achetés, qu'on ne serait pas allé chercher. Et mon vice, c'est de lire tous les livres qu'on m'envoie. Et je vous ai dit la semaine dernière que l'on m'avait envoyé ce livre, qui est « La révolution néolithique dans le monde », qui est un livre publié par l'INRAP et qui sont les actes d'un colloque tenu, je ne sais pas exactement quand, il y a 3 ou 4 ans. En 2008, même pas, ça s'est passé très rapidement. Je vous avais signalé que dans ce livre, il y avait un article tout à fait remarquable de monsieur sur les limites des reconstructions linguistiques et sur la possibilité de remonter au-delà de 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant notre ère, par M. Sylvain Roux, qui faisait très bien le point, ceci étant lié au problème de la diffusion des Indo-Européens. Et comme j'avais le livre, j'ai lu tous les autres articles, parce que le problème de la révolution néolithique est un problème important. Et je suis trouvé sur un article de quelqu'un que je ne connaissais pas, au titre tout à fait neutre, qui s'appelait « La diffusion des populations d'agriculteurs dans le monde ». Par curiosité, j'ai regardé ça. Et je me suis aperçu que M. Bellwood, il s'appelle Peter Bellwood, qui est professeur à Canberra, faisait, en fait, expliquer la diffusion des populations d'agriculteurs, puisque c'est ça la base actuellement, en tout cas, de ce qu'on appelle la révolution néolithique, la découverte de l'agriculture et de l'élevage, qu'il expliquait ça par toutes sortes de moyens archéologiques et génétiques modernes, et qu'il utilisait deux exemples, l'un qui me paraissait très bien, qui se dit la dispersion des Austronésiens de Taïwan dans l'Océanie centrale, 2200 000 avant notre ère, et que j'ai trouvé très savant. Et puis, je tourne la page et je vois la diffusion des populations productrices de nourriture d'Asie occidentale dans le nord de l'Inde avant 3500 avant notre ère. Je dis, mais ça, c'est au point. C'est dans mon sujet. Et effectivement, c'est tout à fait dans mon sujet. Alors, l'hypothèse est celle-ci. C'est que les Indo-Ariens sont depuis, non pas 5000, mais au moins 7000 ans en Inde. La question Monsieur Bellwood, qui a l'air d'être très connu, puisqu'il a été invité à ce colloque, qui est un colloque parisien, parle d'une migration linguistique à la fois néolithique et indo-européenne, allant par des voies de diffusion, sans aucune guerre, sans aucune invasion et sans aucun mouvement de population, et arrivant en Inde. Et Renfrew a ensuite changé un peu cette hypothèse, mais M. Bellwood reste attaché à cette hypothèse. Alors ça donne ceci, c'est que, un, le postulat est que les populations ne changent pas de langue, ce qui est curieux parce qu'il suffit de regarder autour de soi pour savoir qu'il n'est pas de chose plus fréquente que le changement total de langue d'une population sur un territoire donné. Il n'y a qu'à prendre le cas de la France. Plus personne ne parle le celte en France, sauf quelques Bretons. Même des langues comme les langues germaniques, qui étaient la seule langue de l'Alsace au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle, ces langues aujourd'hui disparaissent devant le français. Alors, nous sommes effectivement dans une époque où il y a l'école, et en France, en plus, le pouvoir centralisateur, mais on sait que partout dans le monde, les populations ont souvent changé de langue. Aucune des populations d'Afrique du Nord ne parlait l'arabe avant la conquête musulmane. Elles ont quand même changé de langue. Donc, Monsieur Bellwood considère que les populations ne changent pas de langue, mais qu'elles avancent au gré de la diffusion de l'agriculture, que les langues indo-européennes sont nées en Anatolie aux environs de 7000 avant notre ère, ce qui est une théorie qui a été à la mode il y a une quinzaine d'années, quand est paru le grand livre de Gamkrelidze Ivanov sur les langues indo-européennes. Comme, curieusement, Gamkrelidze est un géorgien et, effectivement, voulait que le berceau des langues indo-européennes soit en Anatolie. D'une part, parce qu'il reconstruisait un système phonologique de l'indo-européen qui est vraisemblable, mais pour lequel il n'a aucune preuve. Et d'autre part, parce qu'il analysait un certain nombre de mots et considérait que ces mots se retrouvaient également dans le vocabulaire sumérien. Donc, il suffit de regarder la carte de Sumer. Et puis, les langues indo-européennes sont au nord du Caucase. Et donc, c'est le Caucase et l'Anatolie qui sont proches, qui pourraient être le centre indo-européen. Le seul ennui, c'est que l'on revient sur quelque chose que les linguistes savent depuis 1870 et qu'ils sont obligés de répéter à chaque fois, c'est que la comparaison des langues ne se fait jamais sur le vocabulaire, car le vocabulaire peut être en grande partie emprunté, qu'il y a des changements de vocabulaire assez fréquent, et que lorsqu'on fait des analyses uniquement à partir du vocabulaire, et qu'en plus, d'une part, on peut se laisser prendre à des emprunts. Vous savez que le chiffre 6, par exemple, dans les langues indo-européennes, est très probablement un emprunt, on est aussi obligé de procéder à des simplifications, c'est-à-dire de ramener tous les mots que l'on veut comparer à un squelette commun, et ces simplifications font que, en fait, on compare des choses qui sont comparables parce qu'on les a simplifiées d'abord pour qu'elles soient comparables. Et l'on arrive à des résultats qui, si on les confronte aux techniques statistiques habituelles, sont absolument invérifiables, puisque le simple hasard arriverait au même résultat. Ça, c'est une chose tout à fait importante. Ça a été la grande découverte de la grammaire comparée des langues indo-européennes et des nouveaux grammairiens aux alentours de 70 en Allemagne. C'est que lorsqu'on compare des langues, on compare des systèmes phonétiques, on compare surtout des systèmes syntaxiques. Et que, les mots, finalement, sont secondaires. En fait, on fait l'étymologie des mots à partir des lois phonétiques et syntaxiques que l'on a découvertes par ailleurs, et qui, elles, ne sont pas... sont moins sujettes à variation et à emprunt que le vocabulaire. Alors, ceci que répètent tous les grammairiens des langues indo-européennes depuis 150 ans, tous les gens qui ne sont pas passés par cette école l'ignorent absolument et comparent ce que dans ma jeunesse on appelait des faux amis. Alors évidemment, avec des faux amis, vous pouvez avoir des correspondances et vous dites c'est la même chose. Mais en fait, quand vous regardez de près les systèmes selon lesquels fonctionnent ces langues, vous voyez très bien que ça ne marche pas. En théorie, tous les gens qui pratiquent ce type de comparaison, qui est par exemple celui de Roulen, ont raison parce que, en théorie, toutes les langues humaines sont issues d'une même origine. Et c'est pour cela que depuis très longtemps, on a essayé de rapprocher, par exemple, le groupe des langues indo-européennes du groupe des langues sémitiques, et même de groupes comme les langues turques. C'est ce qu'on appelle la théorie nostratique. Cette théorie nostratique, en soi, elle est tout à fait légitime. Elle est même probable, mais elle est indémontrable. Elle est indémontrable parce que, au moment où l'on saisit ces langues, que ce soit les premières langues indo-européennes ou les premières langues sémitiques, la divergence a déjà été telle depuis des millénaires et peut-être des dizaines de millénaires qu'il est absolument impossible de démontrer qu'à une époque relativement sûre, elles aient été semblables, ou directement que les gens qu'elles aient pour origine des gens qui parlaient la même langue, disons, il y a à peu près 10 millénaires. Je vous renvoie à l'article de Sylvain Auroux. On ne peut pas remonter, en ce qui concerne les langues indo-européennes, au-delà d'une période qui, aujourd'hui, fait 5000 ans, c'est-à-dire, en gros, 3000 avant notre ère. Alors ça, c'est déjà une première chose que les non-linguistes, non-comparatistes, qui ne sont pas passés par cette école de dressage de la comparaison des langues indo-européennes ne comprennent pas, c'est qu'on ne compare pas des mots dans les langues, mais qu'on compare des structures phonologiques et surtout des structures syntaxiques. La deuxième chose, alors, ça donne que... La deuxième chose, c'est que l'on a constaté en Inde du Nord, depuis l'aube des cultures arapéennes jusqu'au début de la période historique, une continuité de l'archéologie. C'est-à-dire que la poterie grise peinte, la poterie en gobe noire et le cuivre. Puisqu'il y a une continuité des productions matérielles comme la poterie, ça signifie qu'il y a d'une part une colonisation agricole de la région et d'autre part une continuité de la population, ce qui est très loin d'être démontré parce que les Français utilisent des bouteilles de Coca-Cola sans pour cela être devenus entièrement américains. Et ça a toujours été comme ça, je veux dire. Il n'est pas sûr que les populations migrantes se soient déplacées avec leurs potiers. La poterie est un art ou un artisanat sédentaire et on peut très bien se fournir sur place. Quand on regarde comment fonctionnent les nomades d'aujourd'hui, comme les Touaregs ou comme les Pachtounes dans le nord de l'Afghanistan, ils achètent leur poterie aux potiers locaux. Ils ne se promènent pas avec des potiers. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de retrouver une poterie qui soit, par exemple, caractéristique des peuples indo-européens. Alors, donc, si l'on retrouve cette poterie, déjà 3700 ans avant notre ère, elle devait exister avant, puisqu'on nous dit « Le gros de l'archéologie agricole du Gange supérieur et moyen existait 3000 avant notre ère. » Ça, c'est pas très gênant. Ça correspond effectivement aux datations que l'on donne pour Harappa et Mohenjo-Daro, encore que rien ne permette de dire, parce que l'on a des pots, que l'on est un agriculteur. Tout ce qu'on a trouvé, ce sont des pots. Mais ça, c'est pas grave. Et il y a donc une continuité culturelle de la phase Akra, c'est-à-dire 3500 avant notre ère, jusqu'à la période historique ancienne du Gange. Et ces populations sont donc des locuteurs de langues indo-européennes, entre parenthèses indo-ariennes, du moins en Haryana, c'est-à-dire au Punjab, et par association dans la région de l'Indus, compte tenu de la position théorique prise dans cette présentation, reposant sur le fait qu'une diffusion des langues majeures est associée au mouvement de leurs locuteurs. Des populations parlant les langues indo-iraniennes devaient vivre en Iran à la même époque, même s'il n'existe aucune preuve philologique de leur présence en Iran et en Syrie avant 2000 avant notre ère, et si la plupart sont bien postérieures. On peut en tirer l'observation suivante, la documentation historique et philologique peut n'avoir aucun lien avec l'origine ethno-linguistique. Alors, ça pose un problème quand on regarde la bibliographie, on voit qu'il a lu 3 livres en anglais, d'ailleurs de bonne qualité, sur les langues indo-européennes, mais ça prouve qu'il n'a pas compris qu'entre indo-européens et indo-ariens, il y a un gouffre. Les indo-ariens, ou même les indo-iraniens, sont les langues, plus exactement, les langues indo-ariennes et les langues, même plutôt les langues indiennes et iraniennes indivises, ce qu'on appelle le groupe indo-iranien, sont une évolution très particulière d'un groupe de langues qu'on appelle indo-européens, c'est-à-dire des langues attestées, qui en fait remontent à un passé antérieur à toute langue attestée qu'on appelle le pré- ou le proto-indo-européen. Et il est bien évident qu'une population indo-européenne, proto-indo-européenne, il faudrait dire, établie en Inde 7000 ans avant notre ère, ne pourrait pas avoir donné des langues indo-ariennes sur place parce qu'il y a un certain nombre de contacts avec d'autres langues indo-européennes, de similitudes ou alors d'emprunts, similitudes avec le grec ancien par hasard, par exemple, ou avec les langues finno-ougriennes en ce qui concerne les emprunts. Et nous sommes sûrs qu'à un moment donné, les locuteurs des langues indo-iraniennes ont été en contact avec ceux qui allaient devenir les Grecs ou en contact avec des tribus parlant, ou des populations parlant des langues indo-iraniennes. Il est clair que la séparation n'a pas pu avoir lieu en Inde. Il est clair aussi que la séparation, qu'on ne peut pas postuler que 7000 ans avant notre ère, la séparation ait déjà eu lieu. Et ceci pour une raison très simple. Le Rig Veda a été rassemblé vers 1000 avant notre ère. Les hymnes avaient peut-être une forme légèrement différente avant, mais on ne peut raisonner qu'à partir des hymnes que nous avons. Donc ça fait 1000 avant notre ère. 1000 avant notre ère, ça fait 3000 ans. Si vous voulez postuler, comme je vous l'ai dit, que ces hymnes ont été composés avant avec une langue à peu près identique, vous avez 3500 ans. Entre le hindi, le bengali, le marathi moderne, qui sont l'état du Rig Veda aujourd'hui, qui sont ce que la langue du Rig Veda est devenue aujourd'hui, et la langue du Rig Veda il y a donc 3500 ans. Vous voyez la différence. Ça fait plus de 2000 ans que pas un Indien ne comprend vraiment le Rig Veda. Il ne peut pas le comprendre sans analyse philologique. Plus de 2000 ans. Alors, reporter ça 7000 ans, c'est le double. Alors, imaginez dans quel état pouvait être la langue il y a 7000 ans. Donc, ceci est un postulat tout à fait inadmissible. Et ce postulat donc, repose sur une analyse archéologique de trouvailles de peau. Or, le principe, c'est que la céramique ne peut être attribuée à une population tant qu'on n'a pas un texte écrit, c'est absolument impossible, sur une conception de ce que sont les langues indo-aryennes, indo-iraniennes et indo-européennes qui ne correspond absolument pas à la conception des linguistes, et en plus sur l'analyse de données génétiques sur lesquelles je reviendrai. Ces données génétiques sont intéressantes parce qu'elles sont utilisées par les archéologues parce qu'ils font confiance aux biologistes. Et ça a commencé par le grand livre d'Allman et Cavalli-Forza sur la progression des agriculteurs, toujours en Europe, à partir de l'analyse des groupes sanguins. Il y a eu ici un colloque où j'ai dit qu'on partait d'un certain nombre d'assomptions qui étaient fausses et qu'il y avait l'échantillon de départ, qui était la collecte d'échantillons sanguins auprès de populations dites archaïques qui étaient tout à fait contestables, et que, d'autre part, tout ceci passait par une moulinette de statistiques et modélisatrices, qu'avec une autre moulinette, on arrivait à d'autres résultats, et qu'enfin, on parlait de pourcentage, et que les pourcentages n'étaient qu'une estimation, que tout ce qu'on pouvait constater, c'est qu'il y avait plus de gènes de tel type dans tel endroit que dans tel autre, et que finalement, ça n'apportait pas grand-chose. Ça ne fait rien, c'est une technique qui plaît beaucoup aux archéologues, c'est partout. Mais ce qui change, c'est qu'on a développé d'autres techniques maintenant, et en particulier des techniques à partir de l'ADN mitochondrial qui ne se trouve que dans les mitochondries des cellules et non pas dans le noyau, et qui ne transmettent que l'ADN des femmes. Et on sait depuis longtemps que si on utilise cet ADN mitochondrial, il aurait fallu des centaines de milliers d'années avant qu'Ève rencontre Adam, puisque les analyses faites à partir du noyau ne donnent pas les mêmes résultats que celles qui sont faites à partir des mitochondries. Maintenant, on a d'autres techniques encore différentes, qui donnent d'autres résultats encore différents. Ce qui fait que l'on est dans une difficulté extrêmement grande et que chacun choisit ce qu'il veut. Bon, l'article ne tient pas, les organisateurs du colloque devaient le savoir, mais Bellwood semble être un grand nom, et c'est pour cela qu'ils ont demandé à Sylvain Auroux, je suppose, de rétablir discrètement la vérité en ce qui concerne les langues indo-européennes. Mais ça pose un certain nombre de questions. La première, c'est que quand je lis ce que M. Bellwood écrit sur les premières populations de l'Inde du Nord au troisième millénaire avant notre ère, je suis extrêmement étonné que quelqu'un d'intelligent puisse écrire ça. Mais juste avant de lire ces deux pages, j'avais lu ces deux pages sur la migration des Austronésiens de Taïwan vers l'Est, et que j'avais trouvé ça très bien. Je me demande si un spécialiste de l'Austronésie et des Austronésiens n'aurait pas la même réaction que moi vis-à-vis des Indo-Européens, et cela arrive souvent, les gens disant « Oh, sur mon sujet, c'est absolument nul, mais sur le reste, c'est très très bien ». Ça arrive très souvent. La deuxième chose, comment est-ce qu'on fait pour décider dans ces cas-là quand on n'est pas un spécialiste ? C'est le domaine que nous avons aujourd'hui, par exemple, sur le réchauffement climatique ou pas. vous avez des opinions tout à fait contradictoires. Comment est-ce que le non-spécialiste choisit ? Alors, il y a certainement quelque chose, c'est pas simplement sur le réchauffement climatique. Pour donner un exemple plus indien, on a trouvé, il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, en Afghanistan, deux inscriptions en araméen où on lit le nom du roi Ashoka. Il y a eu deux traductions d'abord de ces édits par des savants reconnus, dont un japonais, qui ont traduit, et dont Dupont Sommer, qui était professeur au Collège de France et membre de l'Académie d'inscription et belles-lettres. Et ces traductions ont donné quelque chose comme une espèce de borne frontière et de borne kilométrique en même temps, disant « nous sommes ici et Palmyre est à 10 000 lieues ». Tout le monde a accepté ça. 10 ans plus tard, le successeur de Dupont-Sommer ici, M. Texidor, et un Américain qui s'appelle Rosenthal ont donné séparément une toute autre traduction, disant qu'il s'agissait du compte-rendu d'un jugement, disant ceci, nous sommes dans cet endroit et ces 10 000 arpents de terre appartiennent à M. Intel. Comment voulez-vous qu'on choisisse ? Comment voulez-vous qu'on choisisse ? Vous avez deux grands savants de chaque côté. Quant à savoir si vous prenez la majorité, dites-vous bien que si on avait fait un référendum parmi les spécialistes au moment où Copernic affirmait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de gens qui aient soutenu Copernic. Et quand Pasteur a découvert qu'il n'y avait pas de génération spontanée dans certaines conditions, il a été soumis à de très vives attaques et il a fallu du temps pour que la vérité s'impose. Donc il est tout à fait clair que ce n'est pas la majorité qui décide, que ce n'est pas non plus le nom des savants. Alors, il y a une première chose à faire, c'est quand même essayer de trouver des moyens rationnels d'estimer la valeur d'un article. Les paralogismes, ça se voit assez bien. Mon ami Jean-Claude Gardin a consacré quelques années de sa vie à démonter les paralogismes dans les raisonnements archéologiques. Ça n'a eu strictement aucun effet, tout simplement, parce que les gens veulent des solutions et souvent veulent du rêve. On en revient à l'argument d'autorité, c'est-à-dire que il y a des bons savants et il y a des mauvais, et parfois les bons savants sont pas d'accord entre eux, et il faut attendre un nouveau document. Et en général, on n'a pas la patience, mais normalement, c'est ça. Il y a une troisième... Ça impose aussi des méthodes de travail. L'apprentissage, par exemple, de la grammaire des langues comparées, de la grammaire comparée des langues indo-européennes, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. C'était du temps où il y avait des certificats de licence en France. C'était une partie du quatrième certificat de licence. Et c'était le certificat le plus difficile, tellement que la première revendication des étudiants en lettres en 1968 a été de supprimer ce certificat et cet enseignement, ce à quoi ils ont malheureusement réussi. Donc ça demande un apprentissage et une connaissance des langues. L'archéologie, ce n'est pas simple non plus. Ça demande un apprentissage, une connaissance des techniques, des voyages. Et la génétique, ça n'est pas non plus quelque chose de très simple. Et en plus, la connaissance des modèles mathématiques et statistiques qui gouvernent en fait les conclusions que l'on tire des analyses biologiques, c'est une discipline tout à fait particulière. On ne peut pas demander à quelqu'un de savoir tout cela. Et donc, la seule manière de travailler, c'est de travailler en équipe. Et l'équipe sera d'autant meilleure que le choix des collaborateurs aura été plus sensé. Mais on ne peut pas demander à un archéologue d'être un spécialiste de grammaire comparée. Et on ne peut pas demander à un spécialiste de grammaire comparée d'être un archéologue, sauf quand ils sont vraiment très vieux et qu'ils ont eu le temps de lire beaucoup de livres entre-temps. Et donc, s'ils lisent beaucoup de livres, ils n'ont pas écrit, et s'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas de poste. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, la seule solution, c'est de travailler en commun, et puis, au bout d'un certain temps, la vérité se fait. Mais l'histoire des langues indo-européennes et l'histoire des Aryens montrent qu'à toutes les générations, il faut redire la même chose. Les linguistes des langues indo-européennes répètent la même chose à toutes les générations depuis 1870. Il faut chaque fois recommencer parce que ça va contre la facilité. Il y a une dernière question que ça pose. Est-ce que c'est vraiment important de savoir quelle proportion de gènes paléolithiques il y a en France et quelle proportion de gènes indo-ariens il y a en Inde? Je ne vois pas du tout à quoi ça sert, sauf finalement à nourrir des vues raciales et racistes comme ça nourrit dans l'Europe des années 1900-1940. Et je crois qu'inconsciemment, ça procède de la même volonté inconsciente, je dis bien, d'un certain nombre de gens de reconnaître des races humaines dans le monde et de considérer que l'action de ces races continue à influencer le cours du monde, même 5000 ans après leur apparition dans un endroit. Moi, c'est quelque chose qui me fait très peur et fort heureusement, le développement des études biologiques montre que chaque fois qu'on utilise un autre élément, les conclusions sont différentes. Et donc, on peut espérer qu'à un moment donné, on accordera un peu moins de valeur à ces analyses génétiques. Voilà donc sur les Indo-Ariens. Deuxième excursus, je vous ai dit que l'on ne pouvait pas identifier une poterie si il n'y avait pas un témoignage écrit qui nous dise que tel village était habité par telle population. Et quand je parle de témoignages écrits, évidemment, nous avons des témoignages des historiens, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est un témoignage sur place, c'est-à-dire un graffito ou une inscription qui nous donne au moins la langue écrite. La date de l'apparition de l'écriture est donc quelque chose de très important. Vous savez que la date, les premières écritures sont nées au Proche-Orient, d'abord en Irak et en Égypte, et puis ensuite, très probablement, au Proche-Orient, que l'écriture est connue en Grèce, en Crète, à partir du début du premier millénaire avant notre ère, qu'elle a peut-être été connue des Indo-Européens, c'est en tout cas la thèse de Madame Bader, avec des arguments qui se tiennent, même si ça encore c'est une thèse hérétique. Et en Inde, il y a eu une grande discussion au début des années, disons vers 1900, pour savoir quelle était la date de l'apparition de l'écriture en Inde. Cette discussion est antérieure à la découverte des écritures de la civilisation de l'Indus, ou de l'écriture de la civilisation de l'Indus, qui n'est toujours pas déchiffrée et qui probablement ne le sera jamais, tout simplement parce qu'on n'a pas de bilingue et on n'a aucune idée de la langue que cela recouvre. Et en plus, il y a des problèmes de nombre de signes. Cela paraît assez difficile à déchiffrer. En tout cas, toutes les tentatives qui ont été faites jusqu'à présent sont nulles et non avenues. Ce qui intéresse surtout les Indiens, c'est le départ de leur écriture nationale, c'est la Brahmi. On constate, et ils ont essayé de trouver dans le Rig Veda, vous trouverez toute une série de livres qui vous indiquent que le Rig Veda a un vocabulaire qui dénote l'existence de l'écriture. Ce à quoi les sceptiques répondent, un, c'est qu'on n'a aucune trace de cette écriture, et que deux, il est bien connu que le Rig Veda et les textes védiques n'ont pas été confiés à l'écriture et qu'ils ont été appris par cœur avec des techniques très savantes qui ont permis la transmission du Rig Veda très certainement et d'une très grande partie du corpus védique jusqu'à nos jours, en tout cas jusqu'au moment où les Européens ont commencé à l'imprimer, avec une perfection, avec un conservatisme très proche de la perfection. Et que donc, on est obligé, sauf à être démenti par de nouvelles découvertes, on est obligé de partir de ce qu'on a, c'est-à-dire les premiers témoins de l'écriture. Les premiers témoins de l'écriture en Inde nous montrent qu'il y a deux systèmes, un système dans le nord-ouest de l'Inde et un système dans la vallée du Gange. Le système de la nord-ouest du nord-ouest de l'Inde, c'est ce qu'on appelle la Kharoshthi. C'est une écriture qui est manifestement de type arapéen et qui convient assez mal aux langues indiennes, qui sont l'araméen est une langue sémitique où les voyelles jouent un rôle secondaire. Les moyens indiens que note la Kharoshthi sont des langues indo-européennes où la présence et la tonalité de la voyelle sont importantes. Or, la Kharoshthi note très mal les voyelles, elle note très mal un certain nombre de consonnes, mais elle est manifestement dérivée de l'araméen. Et donc, la doctrine qui est à peu près sûre, c'est que l'écriture a été introduite dans le Punjab ou dans le Gandhara, c'est-à-dire la région de Peshawar, après ou au moment où ces deux provinces faisaient partie de l'empire achéménide, dont l'administration était tenue par des scribes araméens, et qu'elle a été faite à partir du modèle araméen, probablement au moment où la domination achéménide s'est effondrée et où des royaumes locaux se sont constitués et ont donc constitué également une écriture, parce que au IVe siècle de notre ère, il y avait besoin d'une écriture pour les archives. Les premiers témoins de cette écriture sont les inscriptions d'Ashoka. Donc, en gros, 260 avant notre ère. Il y a deux séries d'inscriptions d'Ashoka en Kharoshthi. Ce sont également les inscriptions d'Ashoka qui sont les premiers témoins sûrs de l'autre type d'écriture qu'on appelle la Brahmi, dont le nom vous indique combien les Indiens la rattachent à Brahma. Il y a peut-être deux ou trois exemples plus anciens, mais les premiers témoins sûrs, ce sont les inscriptions d'Ashoka. Quand cette écriture apparaît sous Ashoka, à la grande différence de ce qui se passe avec la Kharoshthi, l'écriture est parfaitement adaptée à la notation des langues indo-aryennes. Parfaitement. C'est-à-dire qu'elle note toutes les voyelles, qu'elle note la longueur des voyelles, qu'elle note toutes les consonnes. La seule chose qu'elle ne note pas, c'est les consonnes doubles. Et en plus, c'est une écriture très élaborée, dans la mesure où la base du dessin des signes est le système alphabétique très particulier, très en avance sur son temps, que l'on trouve dans Panini. Dans Panini, vous avez un chapitre, Panini lui-même ou rajouté à Panini, qui vous donne la classification des phonèmes en sanskrit de façon linguistique, c'est-à-dire les voyelles brèves, les voyelles longues, et puis ensuite toutes les gutturales, et puis d'abord les non-aspirées, puis les aspirées. Après les gutturales, vous avez les semi-voyelles. Après les semi-voyelles, vous avez les sifflantes. C'est une classification extrêmement phonétiquement très fine. Quand on regarde le dessin des signes de la Brahmi, on s'aperçoit que ces signes ont été faits en tenant compte de cette classification. C'est tout à fait net. J'ai fait un cours ici que je n'ai jamais publié parce que mon collègue Falk, avec mon autorisation, l'a intégré dans son livre sur les écritures indiennes qui reprend à peu près, avec des modifications, ses conclusions. Comme c'était publié dans Falk, j'avais pas de raison de publier moi-même. Donc la Brahmi est une écriture parfaite. Comment explique-t-on la genèse au même moment dans une Inde qui parle à peu près la même langue à l'époque, un dialecte moyen indien avec des variations dialectales, au nord-ouest, la Kharoshthi très imparfaite et la Brahmi très parfaite sous les Mauryas. La seule conclusion qu'on puisse en tirer, c'est que la Kharoshthi a été un premier essai dans une région qui connaissait déjà l'écriture à partir d'un modèle et que la Brahmi a été créée beaucoup plus tard ou a été créée plus tard dans une région indienne qui n'avait pas connu l'araméen et où il y avait des pandites, des grammairiens sanskrits qui, profitant de l'expérience de la Kharoshthi, ont imaginé un système d'écriture beaucoup plus perfectionné. Ça met l'invention de la Brahmi soit sous Ashoka, ce qui est peu vraisemblable, soit sous un de ses deux grands prédécesseurs, Chandragupta ou Bindusara. C'est-à-dire que ça la met aux environs de 320-280. Avant, il n'y a pas d'écriture. Et donc, une civilisation n'est pas identifiable auparavant, de ce point de vue-là. Ça pose des problèmes dans le sud de l'Inde, hein, où dans le sud de l'Inde, on a de la proto-Brahmi qui est déchiffrée en particulier par Mahadevan, et qui, à mon avis, c'est vraiment ce que les Britanniques appellent du wishful thinking. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans ce cours, je ne parle très très peu ou pas du tout du sud de l'Inde pour deux raisons. La première, c'est que je ne le connais pas et qu'en général, j'évite de parler de choses que je ne connais pas. Mais la seconde, c'est qu'on n'a pas de source, justement. On n'a pas de source autre que les sources archéologiques depuis les fouilles de Wheeler et autre que l'interprétation de ces anciennes inscriptions Brahmi que même les spécialistes du sud de l'Inde ne datent pas de très longtemps avant Ashoka. C'est aussi un des problèmes pour les nationalistes indiens. Pendant quasiment jusqu'à Ashoka, c'est-à-dire quasiment jusque vers 250, un peu avant, disons 280, il y a une coupure totale entre le sud et le nord de l'Inde. Le seul lien, ce sont des diffusions de formes céramiques et on ne peut rien affirmer. Tout ce qu'on peut faire, ce sont des histoires de culture matérielle et effectivement, les archéologues indiens suivent dans la vallée du Gange, comme disait M. Bellot, tout à fait raison, le développement d'une civilisation de village qui est identifiée par deux types de poteries. Et vous remarquerez qu'elles sont dénommées par les Indiens d'après la couleur, comme je vous le disais, ce qui ne signifie pas grand-chose. Ce qu'on appelle le PGW, c'est-à-dire Painted Grey Ware, qui est une céramique généralement grise, mais qui est parfois rose, Et ce qui est beaucoup plus reconnaissable, qui est le NBP, c'est le Northern Black Polishware. La datation est maintenant à peu près sûre. Les dates sont quand même extrêmement larges, puisque la durée de la céramique peinte grise est estimée entre 1200 et 600 avant notre ère. C'est quand même énorme à cette époque. Et c'est à cette époque qu'apparaît l'usage du fer. On peut en discuter parce qu'il y a un mot védique qui signifie peut-être fer. Et c'est à cette époque aussi, vers l'an 1000, qu'apparaissent les gros villages. Mais il n'y a pas de ville. Certains de ces gros villages ont été fouillés, comme à Tranjikera ou à Itchatra. Ce sont des fouilles qui sont assez anciennes. En tout cas, c'est la période qui voit le passage du bronze au fer. Qui a fait ce passage? Quand on plaque la carte des découvertes archéologiques et puis la carte de la progression du sanskrit tel que, de cette langue qui passe entre le sanskrit védique et le sanskrit, quand on plaque les deux cartes ensemble, on a l'impression que c'est la progression des tribus indo-ariennes. Et c'est ce qu'affirment les archéologues indiens. Ils affirment que la céramique grise est la céramique qui dénote la présence des Indo-Ariens dans telle ou telle partie de l'Inde à cette époque. Ce qui est probablement vrai, mais ce qui n'exclut pas que cette céramique soit aussi celle d'autres populations ne parlant pas encore l'Indo-Arien et qui ensuite allait être assimilée. Et l'autre céramique nous amène directement à l'époque historique. C'est ce qu'on appelle la NBP, qui est une céramique là qu'on a vraiment raison d'appeler black. C'est une céramique tout à fait reconnaissable. Tous les musées indiens en ont un petit bout. C'est une céramique de luxe avec des formes de bol extrêmement fines. La poterie est fine également et elle a un aspect métallique. C'est manifestement une céramique qui imite les vases métalliques. Il y a très peu de décors et la datation est extrêmement discutée et devrait être prise puisque actuellement c'est 600-200. Mais la datation haute repose non pas sur des dates au carbone 14 et des fouilles stratigraphiques, mais sur des spéculations à partir de la date du Bouddha. Et donc, je reviendrai là-dessus, et, puisque les Européens et les Indiens ne sont plus d'accord sur la date de l'apparition et de la mort du Bouddha. Mais en gros, là, on est dans la période pré-Maurya, donc au moment où se constitue... les royaumes et les ensembles qui vont donner l'Inde historique. Ça fait une histoire. Cette histoire, il est très très difficile de la corréler avec celle de l'expansion, non pas des populations indo-ariennes, mais des brahmanes. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a très longtemps que l'on a remarqué que les textes brahmaniques, c'est-à-dire les textes religieux indiens anciens, lorsqu'on les analysait, montraient une progression vers des rivières qui sont situées dans l'est de la péninsule indienne, c'est-à-dire en gros dans la région de Bénarès et de Patna. Ceci est tout à fait sûr. Ce qui est gênant, c'est que le nom des rivières indiennes se transpose à l'infini. Il y a par exemple, pour les gens qui connaissent le nord du Bihar et le Népal, il y a 7 ou 8 Gandaki, et il n'y a pas de raison qu'il y en ait plus. et des Ganges, il y en a partout dans le monde indien, y compris au Cambodge. Mais ceci dit, il y a une certaine continuité et l'on peut penser que ces textes correspondent à une progression, en tout cas des gens qui les ont écrits, des brahmanes. Le tout est de savoir s'ils progressaient en même temps que les populations, avant ou après. Vous me direz, ça n'a pas beaucoup de différence. La nouveauté a été apportée, ici d'ailleurs, par mon collègue Witzel, qui en analysant les formes grammaticales et les écoles brahmaniques, c'est-à-dire les familles liturgiques brahmaniques auxquelles appartenaient les textes, a pu montrer qu'effectivement, il y avait des déplacements de familles brahmaniques de l'ouest en est. Ça se démontre assez bien sur la carte. Et on a une confirmation par les textes de quelque chose dont, après tout, on serait douté, c'est que les brahmanes, s'ils étaient d'abord au Punjab, maintenant ils sont partout en Inde, il a bien fallu qu'ils avancent. Mais en tout cas, c'est une très jolie démonstration. Cette démonstration, il est impossible d'y ajouter des traits chronologiques, il est impossible non plus de préciser exactement. Dans les cartes que Witzel a publiées, vous avez de très grands cercles qui indiquent la position de telle famille liturgique, auteur de telle samhita à peu près à tel moment. Ces cercles, ça représente des aires qui, sur le terrain, doivent faire 1000 km de diamètre, quelque chose comme ça. Ce n'est pas très précis. Alors, la deuxième chose qui a changé, et qui est aussi très hypothétique, c'est la théorie d'un grand indianiste de Lausanne, qui est en fait un Hollandais, qui s'appelle Bronkhorst. Et Bronkhorst considère que le bouddhisme ne s'explique que si dans ce qui s'appelle le Magadha, le royaume d'Ashoka lui-même, en gros, si vous voulez, le Bihar, et particulièrement dans le nord Bihar, c'est-à-dire sur la rive gauche du Gange, la civilisation indo-aryenne, donc qui parlait le sanskrit, ou déjà le moyen indien, était d'un autre type que la civilisation qui était à l'ouest du Bihar. Et que ce Magadha, ou ce grand Magadha, en particulier, est responsable de l'introduction dans les religions indiennes de deux notions clés, celle de samsara, donc de perpétuel remords, comme disent, ou renaissance, et celle d'expiation impossible des actes, la doctrine du karman. Et que c'est ainsi que s'explique dans le Magadha soient nées les deux religions qui ont pour base l'acceptation de cette doctrine, la doctrine des actes, la doctrine du karman et la doctrine des perpétuelles renaissances. Alors, ceci est une théorie qui est extrêmement séduisante. Elle a également un certain nombre de points que l'on peut discuter. Mais il est clair que Bronkhorst a raison de dire et de souligner qu'il y a une impossibilité d'expliquer par la logique des choses, par la logique d'un développement interne, qu'une religion comme la religion védique, qui prône le sacrifice et qui considère que le sacrifice permet de gagner le paradis, quels que soient les actes qu'on ait faits, et une doctrine qui, en fait, nie le paradis, le ciel, disent les Indiens, Svarga, puisque tout séjour dans le paradis est temporaire, donc on en nie l'existence en fait, et qui considère que l'homme, chaque fois qu'il produit un acte, produit une trace, et que cette trace doit être effacée pour que l'homme arrive à la libération. La solution védique, c'était le sacrifice. La solution du bouddhisme et du jainisme, c'est l'inutilité du sacrifice. Il faut bien expliquer comment cela arrive. Et Bronckhorst en donne une explication qu'on peut contester, mais en tout cas, au moins, il s'est attaqué au problème. Mais vous voyez que ceci aussi, c'est une histoire idéologique. Il est très difficile de corréler cette histoire idéologique avec l'histoire archéologique, c'est-à-dire la diffusion des peaux et la diffusion de l'agriculture. Parce que, autant que je sache, l'agriculture du Magadha, celle du Nord Bihar, elle n'est pas très différente de celle du Kosala voisin, c'est-à-dire de l'Uttar Pradesh. Voici, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, en tout cas pour ce cours, et on reprendra la semaine prochaine où je vous parlerai d'une part des populations et d'autre part du Mahabharata et du Ramayana. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.